Mathieu, tu je te laisse ton petit verre. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de commencer à revoir des têtes que j'ai pas vues de tout l'été. Si vous n'avez pas de Bible, c'est vraiment le moment d'en choper une. Levez la main. Si vous n'avez pas encore eu, normalement c'est bon. Alors, j'ai reçu ça cette semaine, le magazine Le Point, le guide des antidépresseurs. Et c'est tout un scandale sur ce qui marche vraiment ou pas, etc., etc. Il y a un professeur qui parle que la dépression est le marché du siècle, que c'est les médicaments qui représentent la plus grosse part, nos remboursements, etc. Mais surtout, moi, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est la page Les alternatives aux pilules. Okay, et on parle ici des pilules antidépresseurs, tout ça. Les alternatives aux pilules. Et c'est intéressant, donc il y a des plantes, la psychothérapie, bouger, aliments anti-déprime, le bonheur est dans le pré, l'effet Mozart, donc la musique, le yoga. Il y a un grand absent, n'est-ce pas? Il y a un énorme absent. Et c'est hyper compliqué dans une société où cet absent est partout. Cette absence, elle est partout et on le remarque même plus. On ne regarde plus les problèmes qu'on expérimente au quotidien d'une perspective divine ou d'une perspective biblique. On ne regarde plus ces problèmes. On ne pense même plus à cette solution parfois. Et donc, les problèmes de dépression sont réels. Ils sont réels. Et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent aider. Mais en fin de compte, d'une perspective de Dieu, le problème est bien plus profond, bien plus grave. Si nous avons des problèmes de santé, si nous avons des crises existentielles, c'est aussi et surtout parce que nous sommes déconnectés de notre Créateur. C'est la Bible qui nous dit ça. Et ce matin, on va essayer de reposer quatre fondements dans les quatre prochaines semaines sur c'est quoi être chrétien? C'est quoi être une église ensemble? C'est quoi? Et en fait, c'est être chrétien, c'est quoi être humain en fin de compte? Parce que pour vraiment, véritablement se sentir bien et vivre le bonheur, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. On a besoin de savoir qui il est et d'être en relation avec lui. Et donc, on va commencer ce matin le premier de quatre messages sur notre mission d'église, qui pourrait être résumée en une seule phrase, mais on va le détailler en quatre dimanches. Alors, beaucoup, je pense, commencent à la connaître, mais chaque année, on essaie de la répéter assez souvent. Donc, nous sommes une communauté de personnes qui sont sauvées par Jésus. Et désormais, on est appelé à quatre choses. On a résumé ça en quatre choses. On va voir qu'on pourrait très bien les résumer en une seule chose, mais on a voulu détailler quatre aspects. On est appelé à aimer Dieu, aimer l'assemblée. D'ailleurs, on les a ici. Aimer Dieu, aimer l'assemblée, aimer la ville et aimer transmettre. Et on pourrait rajouter transmettre quoi? On n'a pas voulu le détailler parce que c'est beaucoup de choses, mais c'est transmettre ce que Dieu nous a donné à d'autres. Alors, ces quatre points, on les a souvent appelés nos quatre valeurs, on va essayer de plutôt appeler notre mission détaillée en quatre facettes, en quatre aspects. Et ce matin, on va se poser la question, c'est quoi aimer Dieu véritablement? C'est quoi ça? Donc on peut rester sur ce slide un petit bout de temps. C'est quoi aimer Dieu? L'idée dans ces quatre étapes, ces quatre facettes de notre mission, c'est que on est tous à des points différents de notre recherche de Dieu. C'est peut-être ton premier dimanche dans une église, c'est peut-être ton millième dimanche dans une église, tu as peut-être lu la Bible en entier de multiples fois, ou peut-être tu ne sais même pas encore qu'est-ce que c'est vraiment la Bible. C'est quoi? C'est le livre des chrétiens, des juifs? C'est quoi? C'est un peu gros, c'est petit. Non, c'est peut-être. On a vraiment une panoplie énorme de nos expériences, de notre cheminement. Et comment, en tant qu'Église, s'assurer qu'on est tous en train de progresser avec clairement le prochain objectif en tête? On a essayé de résumer notre mission d'Église en quatre points. Et donc, si tu ne sais quasiment rien, on t'encourage à découvrir ce premier point: aimer Dieu. Mais si c'est ton millième dimanche dans une église, on t'encourage Moi, le premier, je m'encourage à revenir aux bases. C'est quoi aimer Dieu? Donc, on va regarder quatre choses ce matin par rapport à aimer Dieu. Tu peux les projeter tous les quatre et ensuite, on va revenir progressivement. Donc, c'est quoi aimer Dieu? On va regarder pourquoi devrions-nous aimer Dieu? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a mis ça en premier, avant toute autre chose, dans notre mission d'église? Et enfin, concrètement, à Pont de Cherui, à l'EPEP, en 2018, ça ressemblera à quoi en septembre de cette année? Ok? Donc, quatre choses, et je vous invite à prendre votre Bible. On va lire un passage principal, et puis ensuite, je vais prier pour nous tous. Donc, on va être dans Marc 12, page 654 des Bibles blanches. Marc 12, page 654. Le verset 20, à partir du verset 28. Donc Jésus vient d'être confronté à deux reprises par des personnes qui essaient de le piéger. Et ici, il y a une troisième rencontre qui semble moins piégeuse, la personne semble admirative quand même de Jésus, mais elle pose aussi une question à Jésus. Donc on va lire Marc 12, verset 28. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser des questions. Donc ça, c'était la parole de Dieu. On va se concentrer bien sûr sur la déclaration de Jésus en particulier pour essayer de comprendre c'est quoi aimer Dieu et est-ce que je l'aime? Je vais prier pour nous. Père, on est devant des choses de première importance, des choses profondes, un enseignement qui pourrait changer à tout jamais notre vie. Alors on te demande d'intervenir, d'agir dans nos cœurs à chacun, qu'on soit en train de se poser des questions sur toi, qu'on soit tout nouvellement devenu chrétien ou qu'on soit chrétien depuis 40 ans. Père, aide-nous, s'il te plaît, à comprendre qu'est-ce que c'est aimer et aide-nous, s'il te plaît, à commencer à le vouloir et à voir des progrès dans notre amour, dans notre zèle pour toi. S'il te plaît, agis pour ta gloire, agis pour ta grande cause dans le monde et agis pour notre bien. Tu vois combien on souffre parce qu'on ne t'aime pas. Aide-nous, s'il te plaît. Change-nous. Amen. Alors, c'est un tout petit verset, hein, si vous regardez ce qu'on a ici. Et en même temps, c'est le danger avec ces grands versets. Si on a commencé à lire la Bible depuis quelques années, on va vite zapper ces phrases parce que oui, ça active en nous tous les émotions. On se dit, ah mais ça, je connais ce verset. Je sais ce qui est là. Et d'ailleurs, Jésus, lui, en fait, dans sa réponse à la question de ce scribe qui demande, mais c'est quoi le commandement le plus important? Et c'était quelque chose à l'époque que les théologiens juifs faisaient souvent. C'est, essayons de résumer tout. Si on devait regarder tous les commandements, il parlait de 613 commandements, et plusieurs centaines négatifs, plusieurs centaines positifs, et ils avaient catégorisé tout ça. Mais si on prend tous ces centaines de commandements dans l'Ancien Testament, dans la Torah, le livre sacré juif, si on devait résumer, c'est quoi le résumé? Et les différents experts avaient fait différents résumés. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des synthèses en cours, des choses comme ça. C'est compliqué de prendre un texte, prendre plusieurs textes, en faire une synthèse. Moi, franchement, j'admire tous ceux qui écrivent des livres, parce que réussir à synthétiser quelque chose, c'est facile de faire compliqué. Mais réussir à laisser de côté les choses qui ne sont pas de première importance et venir à juste l'essentiel, c'est compliqué. D'ailleurs, nous, on a essayé, avec notre mission d'église en quatre points, on a essayé de venir à l'essentiel. C'est exactement ça. C'est est-ce qu'on a pris en compte tout ce que Dieu nous dit sur qu'est-ce que c'est être l'église? Non. Mais est-ce qu'on a essayé de formuler pour que les grandes emphases que Dieu a sont prises en compte? Oui. Et donc ici, Jésus, on lui pose la question de tous les commandements, c'est quoi le premier, le plus important? Et probablement, il n'était pas juste en train de poser la question quel est le plus important numéro 1 et ensuite on va mettre le numéro 2 et on va aller jusqu'à 613. Hein. Mais c'était plutôt l'idée, comment tu résumes ça, Jésus? C'est quoi ta perspective sur comment résumer tout ce que Dieu veut pour nous? Et regardez avec moi attentivement la réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, première chose qui devrait nous frapper. Là, vraiment, la question est posée, il parle du premier, et Jésus, il fait quoi? Il en donne deux. Jésus, c'est sans doute aussi pour ça qu'il n'est pas en train de demander, simplement, le gars n'est pas en train de demander c'est quoi le premier, et après, comment on catégorise les autres, mais c'est comment on résume. Et Jésus donne deux choses. Un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Et si vous avez bien écouté les quatre points de notre mission, tout d'un coup, ça active toutes les sonneries, quoi. Il y a tout ici, dans ce verset, qu'on met dans aimer Dieu, aimer l'assemblée, aimer la ville, aimer transmettre. Dans un certain sens, ici, il n'est pas juste en train de parler d'aimer Dieu, justement, Jésus. Il est en train de dire que aimer Dieu et aimer son prochain vont toujours de pair. C'est quelque chose que si tu fais ces choses-là, tu es en train d'obéir à toute la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu fais ces deux choses-là. Donc, c'est super important. Et plus que ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que si on parle, tu poses la question à n'importe qui, c'est quoi la religion ou des... Il y aura deux types de réponses. Soit ils vont se concentrer sur Dieu, soit il y aura les religions un peu humanistes ou les gens qui sont athées mais qui vont dire qu'ils sont plutôt sympathiques envers les religions parce qu'ils apportent beaucoup d'amour pour les gens, tout ça. On va avoir deux types de réponses. On va avoir amour pour Dieu ou amour pour les autres. Et Jésus, ici, il ne permet pas à ce qu'on ait ces distinctions. Ils sont inséparables. Et donc, on a des religions qui sont des fausses religions parce qu'elles n'aiment pas les gens. Et donc, ça veut dire qu'elles n'aiment pas vraiment Dieu, si vous suivez ce que Jésus dit, hein. Et d'autre côté, on a des pseudo-religions qui parlent de l'amour du prochain, mais qui ont rejeté Dieu. Et on va voir que c'est impossible d'aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. C'est impossible d'aimer vraiment son prochain si on n'aime pas Dieu. Alors, prenons maintenant les choses dans l'ordre. C'est quoi aimer Dieu, si on devait se concentrer sur ce que dit Jésus? Alors, Jésus nous donne la réponse, hein. Lui, quand il cite... Ce verset, c'est un verset du Deutéronome, donc le cinquième livre de la Bible, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et il cite ce verset ultra connu. Si tu es né dans une famille catholique, tu connais sans doute le Notre Père par cœur. Le verset que Jésus cite ici, c'est un peu le Notre Père des Juifs. Okay, c'est la prière qu'un Juif pieux aurait récitée deux fois par jour depuis sa petite enfance. Le schéma, ils appelaient ça. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça, c'est comment commencer ce schéma, cette prière. ce commandement. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et vous avez vu, Jésus détaille, comme le fait le texte de Deutéronome, détaille quatre aspects de la réponse. C'est quoi aimer Dieu? Ben, c'est quatre choses. C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors là, j'imagine que les intellos parmi nous sont en train de dire « Alors, c'est quoi dans le grec le mot « âme » et c'est quoi dans le grec pour le mot « cœur » ?» Après, il y a peut-être ceux qui sont en train de se demander « Attends, ceux qui culpabilisent sont en train de se dire « Mais moi, je ne suis jamais en train d'aimer de tout ce que je suis. » Et je ne sais pas comment, quelles seraient les autres réactions parmi nous ce matin en lisant ça. J'espère ici que c'est à la fois clair pour les intellos parmi nous. Si on devait résumer tout ça, c'est quoi aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée? C'est quoi? De tout notre être. De tout ce qu'on est. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce que toute notre énergie est consacrée à lui? Est-ce que tout notre corps est pour lui? Matthieu a lu Romains 12, versets 1 et 2. On est vraiment là-dedans. Le sacrifice, c'est cet amour pour Dieu, c'est être à lui entièrement. Et pensez, je suis sûr que vous comprenez cet amour-là. Que ce soit avec ton premier amour, moi je pense que ça devait être à 9-10 ans, pour une petite blonde, c'était pas encore Anna, mais j'étais prêt à n'importe quelle folie pour elle. Et d'ailleurs, souvent, j'étais plutôt bête autour d'elle, parce que, ben voilà, on perd un peu les pédales. Mais on est complètement à fond pour notre enfant. On serait prêt à n'importe quel sacrifice. On serait prêt à mourir parce qu'on veut le bien de notre enfant. Et pensez à n'importe quelle cause que vous avez à cœur. On est prêt à faire beaucoup de sacrifices quand une cause nous tient à cœur. Si tu veux te battre contre la faim dans le monde, si tu veux te battre pour les orphelins, tu es prêt à sacrifier tes finances. Tu es prêt à sacrifier tes vacances. Tu es prêt à changer ton style de vie parce que tu es entièrement dévoué à cette cause. Et ici, c'est comme ça que Jésus définit aimer Dieu. On a été créé par Dieu. On a été créé pour Dieu. Et on a été créé donc pas juste pour le servir, on a été créé pour l'aimer. Si on est malheureux, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Si on est malheureux, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Si nous passons par des moments si difficiles, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas chrétien. Mais la solution se trouve toujours à se réfugier en Dieu, à venir à lui, l'aimer, lui faire confiance, cette relation avec lui. Donc, c'est quoi aimer Dieu? C'est être à lui, corps et âme. On pourrait dire, c'est aimer Dieu de toute notre énergie et de tout notre être. Et deuxième aspect, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Je vais donner une définition que Dieu donne. Vous pouvez aller avec moi à la page... C'est dans 1 Jean 4. Et donc, c'est la page... 806, on a un super texte dans 1 Jean, page 806, où Dieu lui-même définit qu'est-ce que c'est l'amour. Page 806, deuxième colonne, 1 Jean, grand 4, petit 8. 1 Jean 4, 8. On y est? J'entends encore des pages qui tournent. Page 806, si vous n'arrivez pas à trouver. Vous cherchez le même passage, les gars, ou pas? Je vais lire. 1 Jean 4, 8, 9 et 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Donc, pourquoi je lis ce texte? On va mieux comprendre qu'est-ce que c'est aimer si on regarde comment l'être qui est amour manifeste de l'amour. Vous me suivez? Là, on voit comment Dieu aime, pour ensuite savoir qu'est-ce que ça veut dire que si nous, on aime Dieu. Regardez avec moi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Aussi un verset peut-être connu, mais incroyable. Dieu, qui est amour, par amour pour nous, a sacrifié son propre Fils pour nous sauver. Dieu, par amour pour toi et pour moi, était prêt à sacrifier ce qu'il lui avait de plus cher pour pouvoir pardonner nos péchés, pour pouvoir nous réconcilier avec nous, avec lui, pour pouvoir nous offrir le bonheur d'une relation rétablie. Et je sais, c'est pour ça que j'ai commencé avec le point et la dépression et les solutions qu'on offre. On a du mal à comprendre que le problème est beaucoup plus profond. On est séparé de Dieu, et même si on a commencé à croire en Jésus, encore aujourd'hui, tu es en train d'être reconstruit. Tu es en train d'être refabriqué comme on était à l'origine. Comme on aurait été si on n'avait pas eu cette rébellion contre Dieu, si on ne l'avait pas renvoyé bouler, si on avait été avec Dieu depuis le début, notre cerveau serait différent, notre corps serait différent. Nos réactions seraient différentes, nos émotions seraient différentes, elles seraient parfaites. Et on a perdu ça. Et l'amour de Dieu, c'est que pour pouvoir nous réconcilier, pour pouvoir nous remettre dans les conditions de l'origine, il était prêt à sacrifier son propre Fils. Et son Fils, Jésus, était prêt. Ce n'était pas un sacrifice contre sa volonté. Jésus, par amour pour nous, a accepté de devenir ce sacrifice. Donc c'est quoi aimer Dieu? C'est être prêt à sacrifier tout pour ce qui est important. C'est être prêt à être 100% à Dieu. Et on n'est pas ici dans des choses religieuses. On ne parle pas de devenir moine quelque part dans un ermitage sur une montagne et de voir un être humain tous les 2 ans. Non, on parle de ici même, maintenant, à Pondichéry, être réconcilié avec Dieu et de l'aimer et que ça se voit. Alors pourquoi l'aimer? Je vais vous donner rapidement 4 raisons. Pourquoi l'aimer? Point 2. Tout d'abord, la Bible est claire qu'on a en Dieu un être parfait. Toutes les belles choses que tu aimes, toutes les bonnes choses que tu aimes, toutes les choses qui captivent notre amour, notre attention, elles sont belles uniquement parce que Dieu existe. Ça, je sais que ça pourrait être tout un... Des livres ont été écrits là-dessus, hein, mais les belles choses, la tarte aux pommes de grand-mère que tu aimes tellement, si elle est si incroyable, c'est pas juste parce que grand-mère sait cuisiner, mais c'est parce que Dieu existe. Parce que Dieu est parfaitement beau. Il est excellent dans toute sa personnalité. Et donc, comme le soleil, tous les rayons nous rappellent l'existence du soleil, toutes les tartes aux pommes de grand-mère sont des rayons qui nous rappellent que Dieu est excellent, que Dieu est excellent, que Dieu est excellent. Ça veut dire que nos enfants nous rappellent que Dieu est excellent, Dieu est excellent, Dieu est excellent. Et quand ils font n'importe quoi, on nous rappelle, ah oui, on a désobéi à Dieu, on s'est éloigné de Dieu. Mais tout ce qui est excellent dans ce monde nous rappelle, Dieu est excellent. Comment ne pas aimer la source de toute excellence, la source de toute beauté? Toute musique que tu kiffes, c'est la source de cette musique-là. C'est Dieu qui est excellent. Deuxième raison de l'aimer, nous sommes créés pour lui. Ça, c'est ce qu'on voit quand on prend Genèse 1, 2, 3. On voit que Dieu nous a créés pour lui. Et l'homme est heureux jusqu'au moment où il se sépare de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a une brisure, on est cassé. On reste encore créé à l'image de Dieu, mais on est séparé de lui. On n'arrive plus à être heureux loin de lui. Donc première raison, c'est Dieu est excellent. On devrait l'aimer parce qu'il est excellent. Deuxième raison, on devrait l'aimer parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour l'aimer. Et troisième raison, on l'a lu dans 1 Jean 4, on devrait l'aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Il a tout sacrifié. Nous qui étions rebelles, nous qui étions insoumis à sa volonté, nous qui avons dit à la chose la plus excellente, on te déteste, il a quand même sacrifié son fils pour nous laver de cette insoumission, nous laver de cette rébellion, nous laver de ce mauvais goût, pour nous offrir une relation rétablie avec lui. Et quatrième raison, on va quand même prendre un texte pour celle-là, c'est Romains 8. C'est un peu la raison 2 aussi. Hein. La raison 2, c'est nous devrions l'aimer parce que nous avons été créés pour lui. Et la raison 4, c'est nous devrions l'aimer parce que c'est le secret du bonheur. Maintenant qu'on s'est rebellé de Dieu, maintenant qu'on s'est séparé, qu'on l'a rejeté, il est impossible d'être véritablement heureux si on n'est pas réconcilié en Jésus avec Dieu. Et c'est Romains 8 qui est hyper clair là-dessus. Romains 8, verset 28. Là, dans les versets les plus clichés, les plus cités des chrétiens, c'est celui-ci. Mais regardez, de nouveau, je pense qu'on oublie souvent un aspect de ce verset. Page 737. Tu prends des notes et tu ne marques les pages aussi ? Page 737. Chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Prenez le verset dans le sens inverse. Je ne peux pas affirmer que tout contribue au mal de ceux qui n'aiment pas Dieu, mais au minimum, on sait qu'il n'y a pas tout dans leur vie, il n'y a pas tout dans ta vie qui contribue à ton bien si tu n'aimes pas Dieu. Tu vois la logique ? Nous avons été créés, nos premiers parents, aimaient Dieu. Ils étaient heureux. Et le jour où ils ont essayé de devenir Dieu à la place de Dieu, où ils se sont éloignés de lui, ils ont vécu le désastre. Et depuis, nous vivons ce désastre aussi. Il y a des moments d'excellence, des moments de brillance, des moments d'amour, des moments vraiment magnifiques. Et il y a plein de moments où on est juste rappelé. Pour celui qui connaît la grande histoire, il est juste rappelé, on s'est éloigné de Dieu, c'est normal, toute cette souffrance, c'est normal, toute cette douleur, c'est normal, toutes ces tragédies. Et en Jésus, ce verset 28 du chapitre 8 de Romains devient une incroyable promesse que si tu aimes Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, tout d'un coup, toutes les choses horribles que tu vas peut-être encore vivre vont être transformées en bien. Elles vont maintenant contribuer à un plan que Dieu a pour ta vie. Mais si tu n'aimes pas Dieu, il n'y a pas de plan. On ne peut pas dire que tout contribue. Donc, quatre raisons d'aimer Dieu. Pourquoi l'aimer ? Il est parfait. Si tu aimes les choses excellentes, les choses belles, les choses magnifiques, tu devrais aimer Dieu parce que c'est lui la source de tout ce que tu aimes. Deuxième raison, nous sommes créés par lui pour lui. Troisième raison d'aimer Dieu, parce qu'il nous a aimés en premier en offrant Jésus pour mes fautes, pour tes fautes. Et quatrième raison, parce qu'il est le secret du bonheur. Si tu sais, si tu aimes Dieu, tu sauras que tout ce qui t'arrive, même les choses les plus compliquées, les plus difficiles, vont être transformées pour ton bien, vont être utilisées pour ton bien, c'est Dieu qui le promet. Alors j'espère que vous me suivez encore. On arrive vers la fin. Il reste encore deux points, mais on va aller un peu plus rapidement. Pourquoi est-ce que c'est notre première valeur à Pont ? Pourquoi on en fait un si grand cas ? Pourquoi il faut aimer Dieu avant toute chose ? Alors, la première réponse est toute simple. Hein. On revient à Marc 12. C'est Jésus qui le dit comme ça. Jésus a choisi de résumer toute la loi en deux choses. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Donc Marc 12, si on revient à Marc 12. verset 28, donc c'est la page 654. Jésus le formule comme ça. Il met ça en premier. Tout l'Ancien Testament, la Torah, met une emphase énorme sur l'amour de Dieu. Ça apparaît un truc comme 20 ou 30 fois dans le Deutéronome. Dieu veut qu'on l'aime. Est-ce que l'amour sous-entend qu'il n'y a pas de loi? Parfois on entend ça, hein, que la loi et l'amour sont des opposés. Non, Dieu il a donné plein de lois à son peuple, mais c'est parce qu'il les aimait. Il leur révélait sa volonté. Donc pourquoi c'est notre première valeur? Jésus le formule comme ça, l'Ancien Testament le formule comme ça, le Deutéronome c'est vraiment au cœur du message de ce livre de la Torah. Et pour nous à Pont, pourquoi on l'a mis en premier aussi? C'est parce que si on comprend ce que dit Jésus, c'est impossible de faire le reste de la mission si tu n'aimes pas Dieu. Prenez nos relations les uns avec les autres. Si je n'ai pas Dieu comme mon Dieu, si j'aime pas Dieu avant toute chose, je ne vais pas pouvoir vraiment t'aimer parce que je vais tomber dans plusieurs pièges. Soit je vais venir à toi en essayant de combler le manque que je ressens parce que je ne connais pas Dieu. Et je vais t'accorder trop d'importance et tu vas devenir, là on parle de cette codépendance, je vais devenir codépendant de certaines personnes parce que j'ai pas Dieu qui est Dieu dans ma vie. Ou alors, parce que j'ai pas Dieu qui est Dieu dans ma vie, dans mes relations avec toi, je vais me servir de toi pour atteindre mes idoles, pour atteindre mes faux dieux. Tu vas devenir un moyen, un outil. Je vais te déshumaniser, on se déshumanise. Très, très souvent, regardez ce qui se passe autour de nous. C'est parce que Dieu n'est plus Dieu dans notre vie. Si on avait vraiment Dieu comme Dieu, si on était connecté avec lui, si ce que lui pense de nous suffisait dans notre vie, il n'y aurait plus de codépendance. Il n'y aurait plus de déshumanisation de nos collègues, de nos amis, de nos membres de famille. On ne serait plus en train d'essayer de les manipuler. Jésus ici, dans ce premier commandement, il résume en fait toute notre mission. Aimer Dieu, c'est être saint. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est être parfait. Aimer Dieu, c'est le jour où on aime Dieu à 100%, il n'y a plus rien à changer. Jésus vient de définir la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit parfait, comme Dieu est parfait, qu'on l'aime de tout notre cœur. Parce que aimer un être parfait de tout son cœur, c'est être parfait soi-même. Donc pourquoi est-ce que c'est notre première valeur? Parce que Jésus le formule comme ça, l'Ancien Testament le formule comme ça, parce que les trois autres valeurs sont uniquement possibles si on aime Dieu d'abord. Et donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre pourquoi on le place en premier pour toi, ici. Si tu as l'impression que tu n'es pas encore sûr, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Est-ce que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'est? N'essaye pas de rejoindre une église de maison avec aimer l'assemblée, ou n'essaye pas d'aller annoncer cette bonne nouvelle à d'autres. N'essaye pas de t'impliquer dans une association. Cherche d'abord à connaître ce Dieu. Parce que les autres autour de toi, que tu vas être appelé à aimer, ont besoin de ce Dieu-là. Ont besoin que tu les aimes en réponse à ce que tu as découvert en Dieu. Et alors, dernière raison pourquoi on a mis cette valeur en premier, c'est que cette valeur nous rappelle que nous ne sommes pas une religion comme les autres. Le christianisme, on le lit assez souvent ici, se démarque de toutes les religions, de toutes les philosophies d'ailleurs, hein. Mais surtout si on prend les religions qui croient en un Dieu, toutes les religions vont te dire, dans une forme ou une autre, dans une langue ou une autre, ils vont te dire, fais plus d'efforts pour t'approcher de Dieu. Et Jésus, le christianisme, nous dit, tu ne pourras jamais faire assez d'efforts pour t'approcher de Dieu. Et donc Dieu s'est approché de nous. C'est ce qu'on a vu. L'amour, c'est pas que nous on aime Dieu, mais que Dieu nous a aimés et c'est lui qui a fait le premier pas. Et c'est lui qui est venu, il n'a pas fait 50% du chemin, il a fait 100% du chemin. Il est venu jusqu'à toi, il est mort pour tes péchés, pour que tu puisses enfin l'aimer. Mais Dieu ne t'aime pas parce que tu commences à l'aimer. Il t'aime parce qu'il t'aime. Et toi, tu commences à l'aimer parce qu'il t'aime. C'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui rend ça possible. Et donc, en première place dans notre mission, on est en train de te dire, tu dois croire que Dieu a fait 100% du chemin pour venir jusqu'à toi, mourir à ta place, pour te réconcilier avec son Père. Tu dois croire ça pour pouvoir vivre le reste. Il y a plein de besoins à Pont. Franchement, on est toujours débordé, même si on a l'impression d'être pro et certaines choses, vous pensez que les choses sont sous contrôle. On a toujours plus de personnes qui veulent lire la Bible que de personnes qui peuvent les accompagner. On a toujours plus de personnes qui doivent être enseignées à différents endroits dans l'Église qu'on a de personnes pour les enseigner. On a toujours plus de besoins qu'on a de personnes. Mais s'il te plaît, ne t'engage pas dans ces choses dans l'Église si tu n'as pas d'abord commencé avec cette première étape. De croire que Jésus a fait 100% du chemin. Il est venu mourir à ta place pour te libérer de ta faute, te libérer de ton péché, te réconcilier avec son Père, pour te donner enfin la possibilité de connaître Dieu, de l'aimer, de lui faire confiance et de commencer une nouvelle vie avec lui. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Dernier point, s'il te plaît, Naël. Concrètement, où commencer ? Où continuer ? Si c'est la première fois que tu entends parler de l'amour de Dieu, la première fois que tu entends parler du fait qu'on a été créé pour aimer Dieu et c'est pour ça que la planète va mal, c'est parce qu'on a rejeté cette volonté de Dieu, s'il te plaît, commence à croire en ce Jésus. Commence à croire. Mais si ça fait longtemps que tu crois ça, dans le mariage, très très souvent, il y a des hauts et des bas. Hein. Les émotions sont plus du tout là parfois. Et on en parlait, je sais plus, juste il y a quelques jours là. Et parfois, ça peut sembler un peu cru. J'espère que je dis pas une grosse bêtise. D'ailleurs, la personne n'était pas là, elle est pas là ce matin. Mais on disait, mais parfois on doit faire semblant d'aimer pour aimer. Et ça semble vraiment trash de dire comme ça. Mais l'idée derrière, elle est vraiment juste. C'est parfois, on doit se dire, attends, si j'aimais cette personne, ça ressemblerait à quoi ? On le verrait comment ? Et donc, on commence à faire ces choses pour notre conjoint, qu'on ferait si on l'aimait, et on prie à Dieu, donne-moi des sentiments, et ces sentiments reviennent à fur et à mesure qu'on est en train de faire ce qu'on ferait si on l'aimait vraiment. Et donc, peut-être qu'en ce moment, je vous ai perdu là ? Non ? Un peu ? Bon. Vous pouvez revenir me voir après. Mais avec Dieu, est-ce qu'en ce moment, tu peux dire, oui, je l'aime. Je l'aime. Le fait qu'on ne l'aime pas à 100%, ça nous rappelle qu'on a besoin de Jésus pour nous pardonner nos péchés. Le fait de ne pas pouvoir le faire à 100% nous pousse à croire cette bonne nouvelle que Jésus a fait 100% du chemin. Mais n'empêche, ça reste vrai. Jésus nous dit que pour être heureux, on doit l'aimer à 100%. Et où commencer ? Alors, moi, ce que je t'invite à faire, ce qu'on t'invite en tant que responsable d'église, c'est reviens dimanche prochain. Découvre ce Dieu. Parce qu'à fur et à mesure que tu découvres ce Dieu, ça va être tout le contraire de faire connaissance avec quelqu'un avec qui tu es amoureux. Parce que plus on découvre la personne qu'on aime, généralement, plus on découvre ses failles. Plus on découvre, ah ben en fait, elle est aussi faillible, donc en fait, bref. Ouais, ça va être compliqué en fait. Parfois, ça va être chaud. Hein. Mais avec Dieu, c'est tout le contraire. Tu ne vas jamais arriver à un moment où tu dis « Oh punaise, pourquoi j'ai posé cette question ?» Là, j'ai découvert que franchement, il a des goûts pourris en musique. Non, tu ne vas jamais avoir ça avec Dieu. Et donc, reviens dimanche prochain. Reviens, sois régulier au culte pour essayer de découvrir qui est ce Dieu qui a fait 100% du chemin pour nous. Autre piste. Développe tes capacités de lire la Bible et développe tes capacités de parler avec Dieu. On appelle ça la prière souvent, en mots plus religieux. Développe tes capacités. On a une petite formation pour comment étudier la Bible. Ça prend environ 45 minutes. On peut venir voir Bruno, Mathieu ou moi et on peut te donner cette vidéo pour comment lire la Bible et en ressortir ce que Dieu est en train de te dire. Parce que plus tu développes cette capacité à venir lire ce livre, plus tu vas pouvoir découvrir la perfection, la beauté de Dieu et avoir de l'amour pour lui. Développe ta capacité de lui parler. On a un petit livre là-bas, Lettre à mon barbier, qui montre comment prendre la Bible et la transformer en prière. Comment prendre la Bible et parler à Dieu. Prends ce petit livre. Ou alors, prends un autre livre sur la prière. Ou demande à quelqu'un que tu vois souvent prier. Viens voir cette personne et demande, mais comment tu pries? Et peut-être cette année, ça pourrait être l'année où tu apprends à prier, à parler à Dieu. Autre piste concrète. Pose-toi. Attends, j'en oublie une. En notre livre, celui-ci, c'est un livre qui, à une époque, était un best-seller. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est un peu calmé. Hein. Mais c'est vraiment, le sous-titre, c'est « Bouleversé par un Dieu irrésistible ». C'est comment développer un amour fou pour Dieu. Ce n'est pas la Bible, mais il nous donne envie de lire la Bible. Et je vous le conseille, de Francis Chan. C'est un livre, à une époque, il me semble, l'année du lancement, c'était le best-seller en France, dans les livres chrétiens, protestants. Il y en a encore 5-6 sur la table. Autre conseil, pose-toi dans le mois de septembre. Je sais que la rentrée, c'est compliqué. Bon courage pour demain, d'ailleurs. Pose-toi en septembre, prends une heure, prends ton agenda du mois de juin 2018. Alors je sais que certaines personnes comme Mathieu, ils kiffent ça direct. Peut-être que toi, c'est pas ça. Mais voilà, il y a d'autres pistes. Mais prends ton agenda du mois de juin et regarde. Et dis-toi, combien de ce que j'ai fait au mois de juin étaient des décisions qui étaient motivées par une passion pour Dieu? Combien de ce que j'ai fait était motivé par une passion de Dieu? Et quelles étaient les autres motivations? Est-ce que je l'ai fait pour avoir l'impression de donner l'impression de faire beaucoup de choses au travail, de faire beaucoup de choses à l'église? Est-ce que je l'ai fait parce que je m'étais engagé il y a longtemps et je ne sais pas pourquoi j'avais dit oui à ça? Genre, est-ce que c'était des choses motivées par une passion pour Dieu? Et ça ne veut pas dire que tu vas faire que lecture de la Bible et prière. Mais tout d'un coup, tu peux choisir des actions où tu vas pouvoir aimer des personnes, mais tu le fais pas par désir de montrer que tu fais le bien, mais parce que Dieu t'a aimé en premier. Parce que tu as une passion pour ce Dieu qui t'a sauvé. Ce Dieu qui est mort à ta place. Bon, c'est la seule piste que j'ai notée. Et donc, je sais pas, où est-ce que tu te places sur le curseur? Est-ce que tu aimes Dieu? À lire ça, tu sens que de la culpabilité. Tu dis, mais je ne pourrais jamais aimer Dieu comme ça. Crois que Jésus est mort pour tes péchés. Crois que Jésus t'a aimé en premier. Si tu te dis, oui, je crois que je suis pardonné de mon manque d'amour, je suis pardonné de mon rejet de Dieu, cherche maintenant à connaître ce Dieu. Viens au culte, apprends à prier, apprends à lire ta Bible, viens nous en parler et on va t'accompagner. C'est vraiment le désir en tant que jeune église d'accompagner chacun pour progresser, pour connaître ce Dieu. La chose dingue dans le christianisme, ou dans la vie en fait, c'est que la chose la plus importante est invisible. Tout dans notre vie qu'on aime est visible, nous rappelle constamment de son existence. La tarte aux pommes de grand-mère a vraiment, vraiment une vraie texture. Elle défonce, elle est là et on en veut. Et Dieu est infiniment plus important que les plus belles choses de la planète. Et lui, il est invisible. Donc ça prend effectivement une intentionnalité, ça prend effectivement un peu de planification pour se demander, mais cette année, est-ce que je vais progresser dans mon amour pour Dieu? Ce Dieu qui m'a tellement aimé, est-ce que je vais mieux le connaître? Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Et si tu te dis, franchement, je suis en train de faire des progrès, je suis en train de voir des changements, ben viens dimanche prochain, parce qu'on va parler de l'étape suivante de notre mission d'église, comment est-ce qu'on peut aimer le prochain? Donc c'est la deuxième partie de la réponse de Jésus, mais on va prendre un autre texte dimanche prochain. Je vais m'arrêter là, on s'arrête là. Si tu as des questions, si des choses qui t'ont choqué, des choses qui t'ont dérangé, des choses que tu n'as pas compris, s'il te plaît, viens me voir tout de suite après le culte, n'attends pas, ne laisse pas passer le temps sur l'incompréhension ou sur le choc, c'est bien mieux qu'on en parle tout de suite, s'il te plaît. Je prie. Père, merci que tu nous as aimés le premier, que c'est toi qui as fait tout le chemin pour nous libérer, pour nous laver, nous pardonner, nous sauver. Et Père, s'il te plaît, je te prie ça pour moi en premier parce que c'est tous les jours un chemin, un combat, ouais, de lever les yeux et de me rappeler que j'ai été créé pour toi, qu'on a tous été créés pour toi et que si facilement je suis malheureux parce qu'en fin de compte j'ai perdu cette perspective, j'ai perdu de vue toi, la personne la plus importante de l'univers. Père, je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin, tu vois les progrès qu'on est en train de faire, les choses qui nous encouragent, tu vois là où peut-être on est venu décourager, s'il te plaît, encourage-nous par ta grâce, par les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes chances, les cinquièmes chances, les millièmes chances que tu nous offres, aide-nous à progresser cette année. Tu vois, Père, si quelqu'un ici ne te connaît pas, aide ces personnes à ne pas relâcher dans leur recherche de toi. Révèle-toi à eux. Deviens leur Dieu. Deviens leur premier amour, s'il te plaît. Et Père, je te prie qu'en tant qu'Église, on puisse devenir une Église qui vit ces quatre aspects de notre mission. Qu'on soit plein d'amour pour toi, qu'on soit plein d'amour pour nos prochains, qu'on soit plein d'amour pour les prochains dans l'Église, qu'on soit plein d'amour pour les prochains dans la ville, et qu'on soit plein de zèle de faire des disciples autour de nous. Aide-nous, Père, à progresser, pas dans nos forces, mais dans les tiennes. S'il te plaît, accompagne-nous. On demande tout ça, Père, au nom de Jésus, on demande tout ça pour la gloire de son nom, qu'il soit connu partout.